Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 sur Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur les sites internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jeanne Aimée Synthèse. Bonjour.
Bonjour.
Et de Connie Baker. Bonjour.
Bonjour.
Toutes deux, vous êtes ici pour nous parler des journées du matrimoine qui vont avoir lieu le 17 et 18 septembre, c'est-à-dire un samedi et un dimanche. Deux journées qui seront consacrées justement à cette idée de matrimoine. Et vous en aborderez un petit peu la valeur à votre sens de ce mot. Et je voudrais juste commencer par un petit texte que j'ai trouvé ce matin à ce propos et qui parle du mot matrimoine, qui n'est pas un néologisme, mais un mot effacé par l'histoire. Au Moyen-Âge, il désigne les biens hérités de la mère. À partir du XVIe siècle, le langage se masculinise sous l'impulsion d'institutions comme l'Académie française. Voilà, tout est dit. Et on en est encore un petit peu aujourd'hui. Hein. L'Académie est toujours active.
Et en plus, ce qui est étonnant, c'est, ou flippant même, le reste qui reste de matrimoine, ça se retrouve dans matrimony. Et du coup, ça, en anglais, ça veut dire qu'on est marié. Et du coup, on a la femme d'eux. Et du coup, on est invisible. Et c'est justement ça, notre thème, de découvrir des gens qui ont été invisibilisés. Comme par exemple, on voit très bien l'exemple à la buste de la comtesse, place de la comtesse. Qui des fois est aussi nommée place de l'évêché, ou le panneau qui décrit le buste mentionne comme autrice Madame Hugues Clovis. Et du coup, ça veut dire que voilà, elle a pas de prénom, elle a pas de nom, c'est la femme d'eux, et ça nous dérange. Ça fait partie de notre travail avec laquelle Matrimoine Andiwa a commencé, et c'est bien Jeanne Le Rouanès, la sculptrice.
On peut rappeler un peu l'historique de ce mouvement lié au matrimoine. Il existe depuis quelques années dans le Diwa. Est-ce qu'il y a des antécédents aussi qui ont émergé auparavant ?
Alors, c'est la troisième année consécutive que le groupe Matrimoine Andiwa s'associe aux journées du patrimoine pour mettre en avant le matrimoine. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec nos partenaires, que sont l'Office du tourisme, la mairie de Die, le musée de Die, il est dorénavant acté qu'on parlera des journées du matrimoine et du patrimoine. Donc c'est la troisième année consécutive, et on s'est inspiré en cela du mouvement HF de la région Aura, qui effectivement milite depuis quelques années pour mettre en lumière le volet matrimoine de notre héritage commun, dans un souci d'égalité homme-femme dans le domaine de la culture, mais bien au-delà, dans toute la société.
Matrimoine Andiwa, ce seront deux journées d'animation, d'exposition et puis de visite, de commémoration. Alors, à commencer par mettre en avant aussi des personnalités locales.
Alors, cette année, on fera un éclairage particulier sur Yvonne Audon, grande résistante et grande bibliothécaire et qui est enterrée à Minglon au cimetière familial. En juin dernier, il y a eu un événement hommage à Minglon. Et voilà, il nous semblait intéressant de présenter les supports, des supports d'exposition qu'on a réalisés à cette occasion-là. Et puis donc de mettre en avant le travail de recherche extrêmement intéressant qu'a mené Gudrun Matz. C'est le fruit de ses recherches qui a permis de réaliser cet hommage et cette exposition. Et également avec un petit film qui nous présentera l'événement du 18 juin réalisé par Benoît Mars.
Et c'est une documentation qui a quand même 40 minutes, non ? Du coup, ça donne une bonne impression de ce qui s'est passé à Miquelon. Et du coup, on n'a pas besoin de relire tous les textes de Gudrun, mais de partager ce travail-là aussi, parce que Yvon Odon, il a deux anniversaires, et de son anniversaire et de sa mort. Cette année, elle a eu le 120e anniversaire de son anniversaire en juin. Et là, en septembre, c'est l'anniversaire de sa mort qu'il était en 82. Et voilà, du coup, on voulait repartager ça. Et on va montrer aussi notre actuel état des lieux que Jeanne, elle a travaillé dessus. Et on appelle un inventaire. Et elle peut vous expliquer mieux.
Voilà, donc le samedi à 17h, il y aura une rencontre autour de l'inventaire du patrimoine dans le Diwa. L'idée, c'est vraiment de partir de l'existence, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des noms de rue, de voies, des lieux qui portent des noms de femmes? Quelles sont ces femmes? Quels ont été leurs rôles dans l'histoire du Diwa? Et ça permet aussi, hein, encore une fois, de montrer aussi le caractère très restreint et l'invisibilité des femmes, puisque sur l'ensemble de tous les noms de rues, de voies, de l'ensemble du Diwa, il n'y a que 21 voies qui portent des noms de femmes. Et quand on enlève en fait les références symboliques ou allégoriques comme Boulevard des Ursulines, qui ne parle pas d'une femme en règle générale, mais d'un ordre religieux qui invisibilise chacun de ses membres, eh bien finalement, il n'y a que 4 noms de femmes contemporaines qui ont vraiment leur nom dans les rues de Die et du Diwa. Alors, il n'y en a que 4. Il y a la place Alice Cartier à Saint-Dizier, qui était maire et résistante. Et puis ensuite, on ne trouve que 3 rues qui portent des noms de femmes qui ont été récemment nommées. Donc, c'est la rue Louise Givry, qui était donc sage-femme à Die et qui se trouve vers la Maison de la Santé. Et puis, donc, il y a la rue Rosa Parks et la rue Simone Veil. Donc c'est une volonté récente de la municipalité de Die de rendre davantage visibles des figures féminines qui ont marqué l'émancipation des femmes et l'histoire des femmes. Et c'est aussi en cela que notre inventaire est utile et propose en fait d'accompagner cette dynamique qu'on retrouve aussi dans de nombreuses villes françaises. Voilà. Hein, face aux 4 ou 5 ou 6% seulement de rues qui portent des noms de femmes, il y a du travail à faire et voilà, donc l'inventaire permet de savoir d'où on part et ensuite dans une démarche un peu de recherche-action, d'accompagner les collectivités, d'accompagner les habitants, les jeunes, dans une meilleure connaissance de ce patrimoine et pourquoi pas vers des propositions de noms qui pour des futurs lieux.
Vous parliez de 21 rues dans le Diwa relatives à des femmes. Est-ce qu'on peut donner le nombre de rues totales aussi en comparaison?
Là, on est sur un millier de rues. À Die et dans le Diwa, donc on est en zone rurale. On donne peu de noms de personnages, de personnalités au final. Donc il y a environ 80 noms d'hommes qui ont été donnés et le reste c'est la topographie, la toponymie locale, rue du Glandas, drail des moutons, allée du Tilleul, etc. Donc la nature occupe toute sa place. Mais même parmi les échantillons, la centaine de noms de voix attribués à des personnalités, les femmes sont très, très minoritaires et invisibilisées. C'est-à-dire que quand on parle du boulevard des Ursulines ou de la rue des Sarrasines ou de la tour Sainte-Agathe, on ne parle pas d'une personne en particulier, mais voilà, d'allégories, de figures symboliques qui font disparaître les femmes dans leur activité quotidienne ou dans des figures qui ont marqué l'histoire.
C'est une exposition organisée par l'INPOUC, Gundrun, Mathès et Conny. Mmh. C'est une exposition...
Et Jeanne, qui... parce que...
Oui, Jeanne. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver, justement, dans cette collecte que vous avez commencé depuis combien de temps, d'ailleurs?
Bon, c'est comme on a dit, en fait, c'est, l'exposition, ce serait autour de Yvon Naudon, d'un côté, et de l'état de lieu ou l'inventaire, voilà, en deuxième partie. Où, voilà. Et du coup, on va plutôt assembler tout ce qu'on a fait pendant ces 3 ans, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément... tout vu. L'année dernière, il y avait cette très grande installation, justement, Place de la Comtesse. Mais le dimanche, il pleuvait. Du coup, voilà, c'est tous ces modules, comme on le pense, d'une exposition, on voudrait le remontrer et, en fait, ajouter de chaque année. Et on a, voilà, comme la documentation vidéo, on a des choses en plus, toujours. Mais c'est pour avoir une image un peu plus complexe et avec des médias différents. Mais c'est plutôt, cette année, c'est plutôt une exposition et une rencontre. En fait, c'est plutôt de partager cette recherche. Et on est là aussi pour écouter et pour avoir une sorte d'état de lieu de notre travail aussi.
Avec deux aboutissements quand même, c'est-à-dire que l'album Béatrice 21, coordonné par Kate Fletcher, est sorti. Donc ça a été un projet de longue haleine et la fabrication de l'objet du disque vinyle a pris beaucoup de temps. Donc là, c'est vraiment l'aboutissement de ce travail.
Beauté exceptionnelle.
Tout à fait, qu'on recommande à tous les amateurs de musique. Et puis également l'aboutissement de 4 capsules sonores qui ont été réalisées par Caroline Fontana et qui permettent de se plonger dans 4 thématiques différentes. Cybèle, donc déesse de l'Antiquité, Béatrice, justement, comtesse de Die, dont on a parlé, Yvon Naudon, et puis également les femmes et la soie, donc le travail des femmes dans l'élevage des cocons.
On peut parler un peu de Cybèle, que vous présentez,
ouais,
là, justement. C'est une figure mythique de la Rome antique. Quel était ce personnage ?
Cybèle, en fait, elle a des sources. En fait, elle était introduite au deuxième siècle après Jésus-Christ à Die par les Romains. Mais les Romains, en fait, vu leur culture, c'était toujours de choper ce que les Grecs ils ont déjà fait. Mais les Grecs, dans ce cas-là, ils ont ils ont pris la figure de Cybèle. Cybèle, dans le Nouveau-Orient, elle était soi-disant née par l'histoire, en fait, très mythique, par une météorite noire dans la Turquie actuelle. Et cette femme, du coup, elle était introduite ici. C'est une déesse très intéressante et c'est très intéressant aussi que nous, on ne connaît pas plus d'elle, parce que tout le monde connaît Jupiter et Zeus, mais comme on a bien appris aussi avec Jacques Planchon, le directeur du musée, c'est Cybèle qu'il était au-dessus de tous les dieux. Et du coup, c'est quand même incroyable. En fait, pourquoi on la connaît pas? Et du coup, voilà, en fait, on le sait parce que justement, il y avait l'historien masculin qui a écrit l'histoire et du coup, elle était oubliée. Mais c'est quand même très intéressant. Et cette femme, c'est pas forcément quelqu'un qu'on mettrait en avant. En fait, surtout pas le culte, parce que le culte qu'il a eu, c'était très sanguin, c'était assez affreux. Il faudrait tuer une bête pour se baigner dans le sang, pour être lavé en fait dans son esprit. Mais en tout cas, ça c'est pas ça ne nous intéresse pas forcément. Mais en fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'elle était justement la déesse de tous les dieux. Après, elle était aussi la déesse de la nature sauvage. Et du coup, c'est quand même aussi quelque chose qui existe autour de Dee. Voilà, c'est une figure mystique qui a justement déjà a inspiré Lucrète et Ovid pour écrire des textes. Et du coup, maintenant, on voudrait qu'elle soit pas oubliée.
Il y aura des lectures, justement, de textes d'Ovide et de Lucrèce qui ont été inspirés par Cybèle, la grand-mère des dieux, comme c'est cité. Mmh. Cet événement, lui, se produira à quel endroit et à quel moment?
Là, il n'y aurait pas d'événement. C'est une thème d'une capsule sonore. En fait, c'est une capsule sonore, c'est comme une partie d'une balade sonore, mais ce n'est pas une balade sonore qu'on a réalisé ou que Caroline Fontana a réalisé, parce que ce n'est pas prévu qu'on se balade avec ça. C'est plutôt qu'on écoute là, chez nous, en fait, pendant le week-end de journée de matrimoine et patrimoine. Mais après, c'est en ligne, on peut le télécharger. Et on a prévu d'avoir des QR codes dans la ville, à la médiathèque pour Yvon Audon, au musée pour Cybèle, parce que justement, il y a, au musée, il y a plein de haltères tauroboliques qui ont été sculptés justement pour une procession pour Cybèle et pour le culte, où il y a les signes pour Cybèle, parce qu'il est un taureau, ici aussi un bélier. Après, il y a tous les instruments des musiciens du culte qui ont été gravés sur la pierre. Et en fait, du coup, c'est très lié au musée. Et après, pour la déesse, pour Béatrice de Dee, c'est pas encore 100% sûr. Ça pourrait être à côté de la sculpture, peut-être. Voilà. Mais du coup, on est en lien avec la ville et l'office de tourisme pour avoir ça à écouter dans le long terme.
Mais sinon, pendant les journées du matrimoine et du patrimoine, nous serons accueillis à la cave Gérard et on organisera effectivement des points d'écoute dans une ambiance conviviale et feutrée à l'écart de la cohue de ce week-end, parce qu'il y a plusieurs événements qui se déroulent en même temps. Donc un petit endroit où se poser et on offrira thé, café, tisane, jus de fruits et il y aura la possibilité effectivement d'écouter ces capsules tranquillement ou d'en prendre connaissance et de les écouter effectivement à la maison.
Vous citiez tout à l'heure la mémoire des femmes et de la soie. Comment vont être présentés cet aspect de l'histoire, de la mémoire?
Alors là encore, c'est une capsule sonore, donc elle permet de rendre compte de l'aboutissement de recherches. Mais après, c'est particulièrement vivant dans la mesure où on entend différents intervenants spécialistes nous en parler, quoi.
On peut citer quelques-unes, Jeanne Actis, Christiane Martin, Marie Marquet, Germaine Bernard, Claudine Pellissier, Bianca Arnaud et puis une lecture de Lola Berthet. avec une correspondance de deux pensionnaires des couvents-usines. Mais pour vous inspirer de ces capsules, vous avez fait certainement un travail d'historien. Et dans ce cas-là, comment s'est lancé le processus? Grâce à qui vous avez pu trouver des informations? Et puis,
alors,
sur quelle période?
Le projet Matrimoine en Diwa, il a vraiment deux volets, un de recherche scientifique et l'autre de création artistique. Donc effectivement, il y a un groupe de chercheuses qui s'est constitué autour de Gudrun Matt, donc on en a déjà parlé pour Yvonne Audon, de Marie Marquet qui réalise un travail sur le travail des femmes et le textile. Et puis on a également travaillé avec Elodie Kong sur le buste de la comtesse, donc qui a été sculpté par Jeanne Royanaise, et puis
avec Jacques Planchon.
Avec Jacques aussi. Planchon, Sylvaine Laborde est également en train de réaliser un travail sur les femmes élues après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et après, chaque recherche a sa propre temporalité qui demande plus ou moins de recherche, que ce soit dans les archives, que ce soit auprès de témoins, que ce soit dans les correspondances, etc. C'est effectivement un travail de longue haleine qu'on valorise en fait au fur et à mesure de leur avancée. Donc Gudrun est celle qui a avancé le plus ses recherches. Donc du coup, on a pu le valoriser à différentes occasions. Et c'est vrai que 2022 a été pour nous vraiment l'année Yvonne Audon, puisqu'il y a eu une conférence proposée avec les amis du musée. Il y a eu une journée à la bibliothèque, à la médiathèque, autour d'Yvonne Audon.
Le BD « Les Vivantes ».
Voilà, autour de la BD Les Vivants. La journée d'hommage le 18 juin, voilà. Et puis, Marie Marquet, elle, poursuit ses recherches dans le domaine des femmes et du textile sur différents aspects, dont en partie la soie. Voilà, donc c'est pourquoi il y a une capsule sonore à ce sujet qui détaille effectivement la vie de pensionnaires qui étaient dans une forme de couvent et qui en fait payaient leur pension d'une certaine manière par un travail textile qu'elles réalisaient.
Toute cette documentation, elle est proposée donc à l'écoute, avec quelques bornes. Elle peut être aussi disponible sous quel aspect pour ces capsules qui ont été créées?
Alors, les capsules viennent d'être réalisées. Donc là, on est en train d'imaginer leur promotion. Comme le disait Connie, il y aura sans doute des renvois en ville en lien avec des monuments, un lieu et puis la thématique d'une capsule. Et puis sinon, on peut aussi les trouver sur notre site et les télécharger. Voilà, donc c'est vraiment fait pour un usage divers et varié, aussi bien à destination des habitants, des habitantes, que des gens qui se promènent dans la rue. Et on espère également auprès des scolaires, parce que c'est vrai que c'est des documents qui sont à la fois très riches et vivants, avec différents témoignages, et qui donnent un éclairage sur des personnalités ou sur des activités liées au matrimoine.
Comment l'auditeur ou la personne qui serait intéressée de participer à vos recherches, à votre activité, peut-elle prendre contact avec vous?
Bon, sur le site, il y a l'email de contact. Alors, contact est matrimoine-on-diwa.fr. Voilà, on peut nous contacter, aussi nous voir, justement, quand on est là sur place au Cap Girard, pour parler avec nous et tout ça. Parce qu'en fait, c'est super chouette d'avoir des bénévoles des fois. Après, s'il y a des gens qui vont se consacrer un peu plus, c'est super aussi. En fait, c'est encore mieux, bien sûr. Mais du coup, on est très ouvert. Et si on ne pas tout de suite, c'est peut-être parce que la gérante du site est en vacances ou au travail ailleurs et pas dans Dua. Mais c'est tout.
Et puis, cette démarche de cette reconnaissance donc, historique hein, de la femme, est-ce que vous souhaiteriez peut-être multiplier ce genre de manifestation plutôt qu'une fois par an ?
Ben, oui, en fait, on a déjà participé aussi à la journée du 25 novembre. C'est la journée... contre la violence faite aux femmes. Du coup, on collabore un peu, mais pas extensif, parce qu'on n'a pas du temps pour. Notre cœur, il est toujours avec Coraline, qui a rassemblé toutes les femmes, ou les groupes de femmes dans le Diwa. Du coup, c'est les CDD qui rassemble ces groupes-là. Et voilà, du coup, ça c'est justement dans notre intérêt total d'être avec tout le monde. Et en fait, le 8 mars, on était un peu actifs aussi, une année, mais ça dépend toujours de nos activités principales.
Je peux revenir un petit peu aussi sur ce qui se fait dans la région hein, qui organise ces journées. Donc ça se déroule sur divers départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Allier, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie, le Puy-de-Dôme et la Drôme, qui est quand même le parent pauvre de cet événement. C'est dû à quoi ça ?
Moi je dirais que c'est peut-être le caractère... assez rural de la Drôme, peut-être. On s'est rendu compte qu'on était assez seul dans notre démarche à initier une démarche de recherche dans le Diwa. Alors peut-être que ça peut s'expliquer pour le département.
Oui, on ne sait pas pourquoi à Valence, il n'y aurait pas plus d'événements, parce que justement, ils ont une école... Beaux-Arts, alors voilà, ça devrait être un thème, je dirais, mais pas encore.
Des conférences, on n'en a pas parlé, en fait, proprement dit, on a parlé d'exposition, d'écoute, de bornes.
Alors, on ne l'a pas nommé conférence, c'est plutôt une rencontre et une discussion autour de cet inventaire. Mais c'est bien l'idée aussi d'avoir un moment d'échanges et de discussions directes avec le public. C'est toujours riche, ces moments-là. On n'a pas envie de recevoir que des gens qui vont mettre la tête sous un écouteur et qui ne vont pas venir discuter avec nous.
Et du coup, ce temps de discussion, comme elle a dit avant, Jeanne, ça serait samedi à 5h l'après-midi, 17h.
Où ?
C'est tout
à la cave Girard. Tout se passe à la cave Girard.
Voilà. Et on est là sur place... de 11h à 18h.
Je vois aussi qu'il y a des réservations peut-être à faire. Ça dépend des événements.
Oui,
il y a
absolument.
Une place limitée, j'imagine.
En général, on est là, on accueille tout le monde, comme je dis, là, entre 11 et 18h. Mais il y a un concert prévu et les musiciens ils sont en tournée. C'est difficile à joindre. Et en plus, il y a une jauge, parce que la CAF... comme elle m'a dit, Sylvie Girard ne peut pas avoir plus que 40 personnes. Du coup, pour le concert, il faudrait encore contacter Kate Fletcher. Et là, le numéro...
Le numéro est communiqué. Donc, il y a effectivement le programme des journées du matrimoine diffusé par le réseau HF. Et puis, il y a aussi le programme diffusé par l'Office du tourisme qui est en train d'être finalisé et qui détaille également la participation des uns et des autres.
Oui, parce que comme là, maintenant, ce sont les journées de matrimoine et patrimoine. On n'a pas notre propre programme. c'est chouette qu'on a... Voilà, que c'est global, en fait, global, voilà, dans nos termes de local. on n'a pas, voilà. De toute façon, on ne voulait jamais être une position contre. C'est pas pour être contre le patrimoine, c'est juste pour ajouter le matrimoine qu'il a aussi, qu'il était juste oublié, caché, invisibilisé. Et du coup, c'est plutôt pour donner des nouvelles pistes et des nouvelles perspectives.
Justement, cette démarche de ce travail sur la reconnaissance du matrimoine, matrimonial, quelle finalité vous envisagez aussi par la suite ?
Bah, la finalité, c'est vraiment qu'on intègre à tous les niveaux de la société, je dirais, que ce soit de l'éducation en passant par le tourisme, mais aussi dans nos pratiques professionnelles, culturelles, sociales, qu'on intègre le fait que l'héritage vient autant des hommes que des femmes et qu'il peut prendre toutes sortes de visages différents et que personne n'a à être oublié, en fait. Voilà. Donc après, même au-delà, c'est aussi une démarche qui rejoint diverses minorités, qu'elles soient culturelles, sexuelles ou autres. C'est vraiment dans un travail de très longue haleine et absolument indispensable de viser une égalité entre les femmes et les hommes qui soit complète et qui nous enrichisse en fait mutuellement les uns les autres.
Oui, et en fait, vu qu'on a eu aussi cette discussion sur le terme matrimoine dans notre groupe, parce que c'est un peu, voilà, c'est limité si on veut, mais c'est juste aussi, c'est le premier pas pour justement faire un peu conscience ou mettre la lumière sur un déséquilibre. Et que, voilà, patrimoine, ok. Et après, quand on dit matrimoine, on repense le mot patrimoine. Et du coup, le but, c'est d'arriver à une plurimoine. Et du coup, pour. En fait, parce que nous, on ne s'arrête pas aux femmes, mais dans notre travail. Si, plutôt, mais en fait, on voit plutôt une égalité plus complexe, qu'il n'est pas homme-femme, mais qu'il est, voilà, sous toutes les formes sexuelles ou couleurs de peau ou autres. Et âge, voilà, c'est quand même aussi, voilà, un thème en ce moment.
En amont de l'émission, vous parliez de ce programme qui présente tous les événements régionaux par département. Et vous disiez ne pas avoir forcément des contacts entre vous, toutes ces organisations autour du matrimoine.
En fait, ce n'est pas forcément qu'on n'a pas les contacts, mais le problème, c'est vu qu'on organise des événements les mêmes jours, on peut pas être ailleurs que chez nous. Et ça, c'est un peu dommage, en fait. Et c'est pour ça aussi, j'imagine que HF, qui va en fait les gens qui coordonnent pour toute la région Aura, organisent à Lyon un événement déjà le 12, et pour que aussi les gens qui sont dans l'événementiel, le week-end de journée de matrimoine, dans ce cas, c'est leur terme, peuvent se voir et peuvent discuter entre eux.
Voilà, mais il n'y a pas d'échange entre toutes ces organisations tout au long de l'année. Chacun est peut-être cantonné dans son secteur. Ça, c'est un petit peu dommage.
Oui, c'est dommage. En fait, je crois qu'on a tous un peu déjà pensé d'aller à Lyon et au moins voir les gens de HF. Mais ce n'est pas encore arrivé. Il y avait une visio. Du coup, là, c'était un des bonnes choses de confinement et tout ça, qu'il y avait une visio et du coup on s'est déjà vu au moins virtuellement. Mais oui, en fait, de se déplacer, ça prend du temps. Après tout, en fait, c'est pas une profession ce qu'on fait là. C'est en fait, on a chacun son boulot, ses tâches à faire et du coup ça, c'est plutôt une question de temps parce que On a des sponsors, c'est très bien. En fait, on est très content que la drague, surtout nous subventions et aussi la ville de Die donne un petit budget pour qu'on puisse continuer, mais c'est plutôt un dépannage qu'un vrai honoraire à la fête.
Ce programme, comme vous le disiez, en partenariat avec la Journée du patrimoine, on peut le trouver à l'Office de tourisme et aussi d'autres endroits.
Normalement, ça va être distribué un peu partout, surtout tous les lieux culturels. Ça va être bien visible en ville pendant ce week-end et un peu en amont, parce qu'ils veulent finir bientôt. Le programme, du coup, de toute façon, l'Office de tourisme, il y aurait bientôt. Et après, on n'est pas, en fait, on travaille pas, en fait, on ne connaît pas leur mode de travail, mais je suis sûre qu'ils distribuent assez vite.
On peut parler rapidement de l'association HF. Et leur démarche, la connaissez un petit peu
Oui, leur démarche, c'est vraiment, ils visent vraiment l'égalité entre femmes et hommes, notamment dans le domaine de la culture. Ouais. Donc là, je ne les ai pas sous les yeux, mais sur leur site, ils mettent en avant des chiffres comme quoi, effectivement, les femmes sont toujours en retrait. Ils font un travail extrêmement fin sur la région Aura. Ouais,
Tu pourrais répéter ça avec le site, si tu veux. Mais pas... Ouais.
Ouais. Combien de femmes sont effectivement chefs de chœur classiques ou bien mènent à bien la réalisation de leurs films par rapport au nombre d'hommes, enfin...
Bon. J'invite en tout cas les auditeurs à se rendre sur ce site qui s'intitule d'ailleurs, je ne sais pas si on a l'adresse...
hf-auvergne-rhône-alpes.org.
Donc là, il y aura beaucoup d'informations à y trouver, je pense. Pour l'actualité, au-delà de ces journées du patrimoine, vous en avez un petit peu, Connie, par exemple
J'ai une artiste chez moi, chez Die Residenz. Elle a Zikla qui vient de Berlin. C'est le mois d'échange. Du coup, c'est les Lichtenberg Studios qui m'envoient l'artiste et elle travaille aussi le textile. En ce moment, en fait, elle fait plein de choses. Elle est des fois très conceptuelle et on voit rien. En fait, il n'y a pas d'expo, soi-disant. Mais là, elle travaille des sortes de banners. Des grosses tissus où elle a des mots en tissu aussi collés dessus pour aborder des thèmes qu'elle trouve intéressants. Actuellement, voilà, elle vient juste de venir. Elle a déjà commencé sur la nature et les questionnements de comment on traite les plantes, qu'est-ce qu'on fait en fait avec cette nature. Et du coup, il y a un deuxième artiste, c'est Vera Lyon, qui a passé un mois à Berlin. Et elle, justement, elle est dans une approche post-matrimoine, si on veut, parce qu'elle traite des questions des cuirs. Elle a rencontré deux personnes cuir à Berlin pour faire des portraits en photographie. Elle parle aussi des difficultés d'être dans un nouvel endroit et être peut-être fragile parce qu'on est différent. Dans une grosse ville, du coup, il y a deux travaux qu'on va montrer. Et c'est le 27 septembre, en fait, le vernissage.
Eh bien, j'invite aussi les auditeurs à se rendre sur le site diresidence.net. Eh bien, Jeanne, Aimé Saintès et Connie Baker, je vous remercie toutes les deux d'être venues nous parler donc de ces journées du patrimoine organisées sur Die qui auront lieu samedi 17 et dimanche 18 septembre. Quelle heure ça commence d'ailleurs? Il n'y a pas d'heure?
Pour nous, c'est 11h, 18h. Et j'aimerais bien remercier Sylvie Girard et André Girard qui nous prêtent de nouveau le lieu. C'était un peu dernière minute parce qu'il y a des autres pistes qui n'ont pas marché. Et du coup, merci pour cela. Et ben, merci à toutes femmes des groupes, de notre groupe, qui ont été peut-être pas mentionnées.
Et puis également le musée de Die et du Diwa et l'office du tourisme qui nous permettent de faire pour la première année cette communication commune dont on est enchantée parce qu'effectivement elle va dans le sens du coup d'une prise en compte de l'ensemble de nos héritages.
Merci à vous deux et bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
The ectoplasm. One mind, one ear, beyond orgasm. Music sweet, music ready to receive. With me.